le diagnostic préimplantatoire, en particulier, il polarise un peu les débats. Je pense que pas grand monde, en fait, accepterait... Ça peut poser des problèmes éthiques aux professionnels que j'ai pu rencontrer.
Monde sociaux, le podcast.
Bienvenue dans ce nouveau podcast de Monde sociaux. Aujourd'hui, on se retrouve avec Anne-Sophie Giraud pour parler de techniques procréatives. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour.
Anne-Sophie, tu es donc chercheuse en anthropologie sociale et j'aimerais qu'on discute de tes recherches de l'envers du décor des techniques procréatives. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quelques phrases qu'est-ce que c'est l'anthropologie sociale ?
Alors l'anthropologie sociale, c'est l'étude de l'humain en société. Et donc on va s'intéresser aux différents domaines qui composent une société humaine, c'est-à-dire la famille, le politique, le religieux, etc.
Dans le cadre de tes recherches, tu t'es intéressée aux techniques procréatives. Mais de quelles techniques est-ce qu'on parle et en quoi est-ce qu'elles consistent ?
Alors les techniques procréatives que j'ai étudiées, c'est d'abord la fécondation in vitro, qui consiste à prélever des gamètes humains, donc sperme et ovocytes, et à les mettre en contact en dehors de l'utérus, pour lorsqu'il y a des problèmes d'infertilité. Et la deuxième technique, qui est le diagnostic préimplantatoire, donc DPI, qui est une technique qui allie à la fécondation in vitro une analyse génétique. Et en France, elle est uniquement autorisée pour éviter la transmission d'une maladie génétique d'une particulière gravité, lorsque un couple ou une femme seule est à risque de transmettre une maladie génétique.
Il y a a priori un gros écart en fait entre les représentations qu'on se fait de ces techniques et la réalité. Alors comment est-ce qu'elles sont représentées, ces techniques, dans les médias ou dans la sphère publique ?
C'est surtout le cas du diagnostic préimplantatoire qui soulève de nombreux débats et d'intenses discussions dans les débats bioéthiques, à l'occasion notamment de la révision des lois de bioéthique, qui est un ensemble de lois qui encadrent tout ce qui est technique de procréation, mais aussi, par exemple, la greffe, voilà, l'ensemble de ces pratiques. Et le diagnostic préimplantatoire, en particulier, il polarise un peu les débats, puisqu'il est... Il y a souvent en fait beaucoup de craintes, notamment d'eugénisme, de discrimination envers les personnes en situation de handicap. Et on a souvent cette idée que, ou cette vision de, par exemple, qui est souvent véhiculée dans la littérature, comme Bienvenue à Guataca, ou encore Ces garçons qui venaient du Brésil, où on va créer un bébé parfait ou un bébé créé sur mesure. Et à l'inverse, souvent, cette technique est présentée un peu et vraiment porteuse d'espoir, puisqu'elle permet justement à des personnes qui sont atteintes d'une maladie génétique d'une particulière gravité d'éviter de transmettre à leur enfant cette maladie.
Il y a aussi une force mise en avant un petit peu des cas miracles dans les médias, il me semble.
Alors, c'est pas que d'ailleurs le cas du diagnostic préimplantatoire. Par exemple, une chercheuse américaine qui s'appelle Monica Casper, qui a travaillé sur la chirurgie fœtale, montrer qu'il y avait un surenregistrement en fait, des naissances extraordinaires ou un surenregistrement aussi des interventions sur le fœtus de façon extraordinaire, alors que donc on se concentre en fait, sur ces cas minoritaires et ça passe sous silence à la fois les cas où ça ne fonctionne pas et aussi les nombreux échecs et les peu taux de réussite qu'il y a en diagnostic préimplantatoire.
Donc dans la réalité, en fait, avoir recours à ces techniques, ce n'est pas aussi miraculeux et aussi facile. Il y a d'abord une question de l'accessibilité.
Alors il y a d'abord la question de l'accessibilité, puisque le diagnostic préimplantatoire, en particulier en France, est extrêmement et strictement encadré. Et par exemple, il n'y a que 5 centres en France qui sont autorisés aujourd'hui à pratiquer le diagnostic préimplantatoire. Et ça, uniquement sur le territoire métropolitain. C'est-à-dire que les départements d'outre-mer, donc les personnes en fait qui sont en outre-mer, sont obligées de se rendre en France métropolitaine. Et il y a des personnes qui font parfois en fait des kilomètres pour avoir accès à cette technique.
Il y a aussi un aspect de classe sociale. C'est un modèle en général récurrent qui a accès à ces techniques ?
Non, pas forcément. Je pense que c'est... toutes les classes sociales en fait peuvent y accéder, puisque l'avantage en France c'est que la fécondation in vitro, enfin toutes les techniques de procréation médicalement assistée sont remboursées à 100% par la sécurité sociale, avec parfois selon les centres des dépassements d'honoraires. Mais dans le cas du diagnostic préimplantatoire, là c'est entièrement pris en charge. Mais on sait par exemple que Il y a certains critères discriminants qui empêchent en fait d'accéder à ces techniques, et c'est par exemple des personnes qui sont que on juge en fait être en situation un peu précaire, que ce soit parce que elles sont en situation de handicap et on considère que l'accession à la parentalité peut être difficile, ou parce que par exemple je raconte justement dans mon article en fait un cas où une femme avait abandonné sa fille et elle souhaitait avoir accès donc au diagnostic préimplantatoire, et dans ce cas en fait cette situation avait été extrêmement compliquée pour l'équipe que j'ai suivie, puisqu'on se demandait si en fait elle serait capable d'accueillir un nouvel enfant. Et donc c'est pas je veux pas donner une mauvaise vision des professionnels, au contraire en fait ils sont vraiment pris dans ces considérations morales, éthiques, qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qui leur semble en fait le mieux pour un enfant qui va venir.
Et tu parlais tout à l'heure des cas qui étaient invisibilisés, les échecs plutôt qui étaient invisibilisés. Est-ce que tu as une idée un petit peu des chiffres ?
Alors, en fécondation in vitro, de manière générale, depuis les débuts de la fécondation in vitro, c'est-à-dire la fin des années 70, les taux de succès sont relativement similaires, c'est-à-dire qu'ils sont de l'ordre de 30%, ce qui est relativement bas. Et moi, ce qui m'agaçait un peu aussi dans les débats, c'était que souvent, la vision catastrophique, c'est un peu... c'est-à-dire que tout le monde va vouloir faire un enfant à la carte, va avoir recours à ces techniques, et ça passe sous silence aussi les difficultés émotionnelles, corporelles, financières, et puis les peu de taux de succès en fait, qu'il y a derrière. Et par exemple... pour les femmes, ça signifie avoir des traitements hormonaux qui sont lourds, avec des effets secondaires importants. Ça signifie donc se faire des injections tous les jours, avoir une ponction ovocytaire qui est en fait parfois, alors souvent sous anesthésie générale, et qui aussi a un impact en fait sur la vie quotidienne des personnes qui ont recours à ces techniques. Et donc ça, quand on dit que tout le monde passerait nécessairement par la procréation assistée pour avoir un enfant, je pense que pas grand monde, en fait, accepterait... il faut vraiment être en situation d'infertilité ou avoir qu'il y ait une maladie génétique grave pour qu'on accepte, en fait, ce genre de parcours.
Il existe un autre problème éthique qui n'est pas souvent mentionné, c'est celui des restes ou des déchets, entre guillemets, à la suite de ces techniques de procréation. Est-ce que tu peux expliquer de quoi il s'agit et en quoi ça pose un problème ?
Dans le cadre des techniques de procréation assistée... Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle donc une sélection qui est opérée, qui est une sélection nécessaire, c'est-à-dire que parce qu'on ne va pas transférer soit des gamètes, soit des embryons qui ne sont pas susceptibles de se développer, de s'implanter et de se transformer, d'avoir une naissance viable. Et donc on va d'abord sélectionner donc les gamètes et les embryons sur des critères morphologiques, qui donne en fait des renseignements sur cette capacité en fait à se développer. Et dans le cas du diagnostic préimplantatoire, il y a une deuxième sélection qui est génétique, puisque l'objectif du diagnostic préimplantatoire, c'est d'éviter le transfert d'embryons qui sont porteurs de la maladie génétique qu'on veut éviter. Et donc de fait, ça s'accompagne d'un nombre important, du moins, de gamètes ou d'embryons qui sont écartés du processus de procréation et donc qui sont en effet jetés. Alors ça pose pas un problème en tant que tel, mais donc ça peut poser des problèmes éthiques aux professionnels que j'ai pu rencontrer, notamment lors d'un terrain que j'ai fait dans les années 2010, où il y avait un peu cette... le critère génétique, on va dire qu'il est assez... objectif d'une certaine manière, puisque l'embryon est porteur ou non de la maladie génétique. Mais dans le cadre des critères morphologiques, il y a toujours un peu l'incertitude qu'un embryon « moche », entre guillemets, peut donner en fait une grossesse viable. Et donc, les personnes que j'avais rencontrées à cette époque étaient assez frileux, ou du moins, ça leur posait problème en fait de jeter des embryons qui, peut-être, avaient cette potentialité de se développer. Tous les professionnels ne se posent pas ce genre de questions.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un petit mot pour conclure ?
Oui, je voudrais ajouter un mot, c'est que souvent, ce qu'on entend dans les débats bioéthiques, dans les débats politiques, c'est un peu cette vision d'une médecine toute puissante, où tout fonctionnerait forcément. Or, et ça passe sous silence, en fait, il me semble aussi les parcours souvent difficiles, En fait, ça passe sous silence en fait la souffrance, à mon avis, et ça donne une vision du futur qui, à mon avis, n'est pas la réalité.
Merci beaucoup, Anne-Sophie.
Merci beaucoup.
C'était Yulia pour Monde Sociaux.
Monde Sociaux, le podcast.